Et notre invité du 8-30 ce matin sur Alpes 1, Renaud Muselier, bonjour.
Bonjour.
Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, merci de nous accueillir ce matin dans les locaux de la région du côté de Marseille. Vous avez présenté vos vœux à la presse et tout résonne autour des JO 2030. Et bien sûr, on va y revenir. On en est où aujourd'hui? On se souvient que la garantie financière a été signée par Michel Barnier. Depuis, pas de budget. Et certains s'inquiète. Aujourd'hui, le collectif, par exemple, Nos JO, dit « Ah oui, mais le contrat haute olympique n'a pas été signé par le CIO ».
Bon, moi, je ne suis pas du tout inquiet pour les Jeux Olympiques. On est passé par différentes étapes un peu complexes. Complexes parce que, on a fait un dossier en janvier 22 quand je l'ai présenté. Et là-dedans, il y avait beaucoup de scepticisme de tout le monde. Personne n'y croyait. Et en réalité, le dossier que nous avons monté avec les équipes de la région sur la base de Clim Snow, qui montre où il y a la neige, où il n'y en a pas, d'ici 2050, on a les capacités d'organiser ces grandes manifestations sportives. Un peu comme l'île Hammer, c'est-à-dire la neige et les chalets avec les champions. Voilà. C'est ça l'enjeu, puisque c'est exactement ce que nous avons dans les Alpes du Sud, neige, chalet, champion et compétences. On a monté ce dossier a été particulièrement bon d'ailleurs, ce qui fait en sorte que le CIO nous a retenus et nous a dit, bon mais attendez, on a Laurent Wauquiez qui vient d'arriver à les Alpes du Nord, ils ont eu trois fois les Jeux, est-ce que vous pouvez trouver un terrain d'entente? Et donc on a trouvé un terrain d'entente parce qu'il faut savoir partager pour pouvoir gagner. Et donc nous avons gagné, c'est plus facile pour lui parce qu'ils en ont eu trois, ils ont des infrastructures, nous on n'a jamais concouru en pensant qu'on ne les aurait jamais en fait, et donc un peu de culot et de détermination et de travail ça fonctionne. Ça nous amène à une situation où nous avons gagné avec un très bon dossier et ça nous a permis de reculer les Américains sur 2034 parce qu'ils ont les Jeux, là, les pauvres d'ailleurs avec Los Angeles, des Jeux d'été, donc ça les recalait 2034, les Suisses 2038 et nous on les a pour 2030, on est prêts.
Bien. On est prêts.
Alors on est prêts pourquoi? Parce que on a fait... des choix stratégiques sur les clusters qui ont été validés, que ça soit autour de Briançon, Serre-Chevalier et Montgenèvre. Un choix sur Nice, surtout le volet de la glace. Ces deux clusters sont deux villages olympiques. Ça nous permet d'avoir un aménagement territorial avec des grandes ambitions, que ça soit sur le Fort des Têtes, que ça soit sur Nice, que ça soit sur la ligne de Briançon qui monte en train, sur l'étoile de Veyne qu'il faut mettre en place.
On va revenir sur tout ça, mais sur ce document.
Et donc tout ça fait en sorte que quand on a mis tout ça en place, ce document, ce travail a été fait, nous donne l'éligibilité. Et cette éligibilité-là, elle sera faisable grâce à 2030. C'est pour ça que les Jeux ont un sens pour l'aménagement du territoire. Et donc quand j'entends certains critiques qui disent « Mais non, Attal aurait pas signé, je pense, le Premier ministre. Barnier, il a toujours soutenu, il a signé. » Il y a des réserves financières, pas de problème. On va traiter les réserves financières parce que nous n'avons pas le même chiffre.
Donc
que
ce
l'État
document
français.
Sera signé.
Et parallèlement à ça, le CIO demande que le budget soit des Jeux soit validé dans le budget de l'État quand il sera voté. Bon, mais quand il y aura un budget de l'État,
donc vous n'avez pas d'inquiétude, ce document sera signé.
Non, c'est la mauvaise foi. Ce que vous avez souligné, c'est la mauvaise foi pure.
Le COJO, justement, le comité d'organisation, sera mis en place début février. Vous y siégerez 10 000 euros de cotisation annuelle pour 2025 pour la région. Ce sera aussi la Solidéo, le mois de la Solidéo, société de livraison des ouvrages olympiques. C'est extrêmement important, 2 300 000. Et là aussi, certains vont vous dire, mais c'est pas le moment, c'est trop cher.
Oui, enfin, il y en a certains qui peuvent rester sous la couette et pas bouger non plus. Moi, j'ai une vision de développement de mon territoire, de mes Alpes, de ces trois territoires alpins sur six quand même de ma région. J'ai Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Je vais abandonner la moitié de mon territoire sous prétexte qu'il ne faut rien faire. Non, au contraire, il faut faire. Et puis, honnêtement, vous parlez de moyens financiers qui ne sont pas très importants. Par contre, qui sont structurellement essentiels pour la suite. Donc, pourquoi ça s'est passé comme ça sur le COJO, la Solidéo? Ça ne vous a pas échappé que le COJO, qui est ce qui est la partie la plus apparente des Jeux Olympiques, Monsieur Estanguet, on a bien vu sa capacité de rayonnement et de mobilisation autour des Jeux. Très bien. Ça, nous avons décidé, les collectivités, parce que c'est quand même les collectivités d'État qui payent, c'est pas les sportifs. Donc les collectivités ont décidé que ça soit un sportif. Donc le CNO et le CIO nous ont fait des propositions. Ce sportif, on est en train d'étudier par l'intermédiaire de la Haute Autorité de la Vie Politique la transparence financière de façon à ce qu'on ne se trouve pas avec des conflits d'intérêts derrière si on choisit tel ou tel sportif.
Un Alpin du Sud peut-être?
Non, pas un Alpin du Sud parce que le COJO sera vraisemblablement sur les Alpes du Nord. On ne sait pas encore si l'établissement du comité du COJO soit installé plutôt à Lyon, on en dit plutôt autour de Lyon.
En tout cas, la Solidéo est à Marseille.
Et après, l'outil le plus important sera confié, c'est moi qui en serai le président la première année, pour mettre en place tout ce qui sera livré. Et pourquoi il est à Marseille ? Parce qu'il est ici à côté de moi. Et à partir de là, je peux pousser, surveiller, faire aboutir, faire les arbitrages nécessaires pour que ce qui est le plus important, ce que vous avez souligné, la Solideo, qui livre les outils, soit livrée pour 2030.
Les outils, justement. Le ferroviaire, vous avez beaucoup insisté dessus. 3h30 pour relier Marseille et Briançon. 151 millions d'euros qui seront mis sur l'étoile ferroviaire de Vennes. Où ? Pour faire quoi ? Est-ce qu'on va résoudre certains ralentissements, notamment du côté d'Embrun ? Est-ce qu'il y aura plus de rames, notamment, qui seront mises en place ?
Mais bien sûr que oui. Dans les différents contrats de plan que j'ai signés avec l'État, chaque fois j'essaie de mettre en avant les Hautes-Alpes. Mais on m'explique qu'il y a pas assez de monde. Et donc les arbitrages financiers dans un pays qui a plus d'argent doivent être mis ailleurs. C'est difficile de dire non. Quand vous avez des territoires urbains autour de Marseille à 300 000 habitants où il faut faire une rocade, et moi je demande l'aménagement du rond-point de Tallard. Vous vous rendez compte de la difficulté de l'exercice quand même pour arriver à avoir l'arbitrage. Avec les Jeux, c'est pas pareil quand même. Avec les Jeux, j'ai la capacité enfin de dire à monsieur Roger Didier, mais il siège avec moi, Roger, ici à la région, de dire, mais on va te faire l'étoile de Vennes, là, juste au-dessus, on va te faire aussi la rocade, de façon à désengorger l'AP, de pouvoir dire à madame Emmeoud, mais dis-moi, on va régler le problème sur Embrun, et ce train qui mettait quand même avant, revenons-en à des choses assez simples, le train il mettait 3h30, 4h moins le quart à l'époque. Pour monter. C'était un chouchou avant. Hein oh. Là, ce n'était pas des trains modernes, avec toutes les modernités que l'on a. Ils ont abandonné les ballasts, les doubles voies, les croisements de voies, etc. Ça a été abandonné. Donc, de 3h30, on est monté à 5h. Et si on ne fait rien, ben, on mettra 5h30, puis après, ça sera abandonné. Et si on veut utiliser le train pour aller là-bas, eh ben, il faut profiter de cette occasion. Donc il faut refaire ces voies ferrées, les remettre à niveau, accélérer quand on peut accélérer. Et avant, on roulait à 110, et là, parfois on peut rouler qu'à 50. C'est pour ça qu'on met autant de temps. Et parallèlement à ça, c'est le train de nuit pour Briançon, c'est le fort des têtes,
c'est un ensemble
d'aménagements. Ouais. Comme ont eu les Alpes du Nord, ouais. Et qui en ont profité pendant les 3 Jeux olympiques qu'ils ont eu.
Le train de nuit Paris-Briançon, ça dépend pas de vous, le train de nuit Paris-Briançon, mais en tout cas, une question qui revient, c'est le cabotage. On va préciser ce que c'est que le cabotage, c'est-à-dire la possibilité d'acheter un billet TER, de monter à Gap, de prendre le train de nuit et d'aller à Briançon, par exemple, ou inversement. Vous y seriez favorable ?
Bien sûr, j'y suis favorable. À partir du moment où le train y passe, on peut peut-être monter dedans quand même. Donc, bien sûr que j'y suis favorable. Mais tout ça ne peut se faire que si on trouve des solutions par rapport à quelque chose qui bouleverse tout. Et les Jeux Olympiques bouleversent tout. Les Jeux Olympiques 2030, c'est demain. Donc les arbitrages doivent être pris très vite. Et donc il faut faire des pressions très fortes pour changer ces mauvaises habitudes qui nous expliquent toujours que ce n'est pas possible, on n'a jamais le truc.
Les JO 2030 seront votre coup de pression.
C'est-à-dire que je leur dis, quand j'arrive dans les différents ministères, de toute façon, ils changent tous les ministres les uns et les autres. Mais enfin, là, on est plutôt bien, parce qu'en ce qui concerne les transports, c'est M. Tabarot qui est ancien vice-président de la région transport. Et je lui dis, mais moi, je dois livrer en 2030. Donc vous êtes gentil, mais vous arbitrez chez les autres, vous arbitrez pas chez moi. Moi, je dois livrer, le monde entier va venir. Alors comment je le fais, ça ? Je veux décarboner, comment on fait ? Comment vous me donnez, pourquoi vous ne voulez pas me donner les autorisations pour tel ou tel truc ? Parce que je livre, je vais livrer, donc vous êtes obligé de me suivre. Mais ça marche.
Et ça marche. Et alors du côté de Lubail, acquisition en sauce d'un bâtiment, ce sera ce fameux centre de préparation physique extrêmement important pour les JO 2030. Il sera où ce centre
c'est
de préparation ?
C'est pour ceux qui connaissent le sauce, c'est le CCAS qui est sur la place du sauce à côté de l'office du tourisme en face de chez Jacques Martin des Flocons. Là. C'est l'ancien DAHU pour ceux qui connaissent l'hôtel DAHU au sauce. En fait l'idée c'est que il y a pour les Alpes-Maritimes. Dans les Jeux Olympiques. Il y a pour les Hautes-Alpes. Il n'y a rien pour les Alpes de Haute-Provence. Et donc avec Mme Barret, la présidente du département, avec Mme Elisabeth Jacques, la présidente de la communauté d'agglo de Lubail, l'idée c'est de faire d'unir dans la Vallée Blanche là-bas le Pralou et la Foudalos, parce que ça fait un domaine skiable là de dimension mondiale.
Hein. L'espace lumière.
Donc là on a vraiment une dimension mondiale qui n'existe pas sinon des petites stations plus petites. Et puis la vallée du Bas était assez exceptionnelle. Poser un fond romeux, enfin des Alpes, le fond romeux des Alpes, on va le mettre au sauce. Et on achète une discussion avec le comité d'entreprise de la CGT de EDF pour acheter ce bâtiment qui est prêt et qui permettra de faire le biathlon un peu sur Josier. Enfin, ça va alimenter été comme hiver tous les sportifs de haut niveau avec une capacité de soins, de traitement. C'est le fond romeux des Alpes du Sud.
Dernière question, Renaud Muselier, avec cette belle nouvelle que vous avez annoncée, la 12e maison des femmes de la région, elle verra le jour à Briançon en 2025. Bonne nouvelle. Alors, pourquoi pas Gap d'abord ? Pourquoi Briançon ? Est-ce que c'est aussi par rapport au jeu ?
La prochaine sera à Gap. C'est une question de calendrier, de mise en place du dispositif, de capacité d'installation. Et donc, on avait dit dans notre programme qu'on ferait 19. Bon, ben là, on est largement dépassé, hein, donc ouais. On avance beaucoup hein, là-dessus. Donc, c'est une très très bonne chose. Quand je vois les résultats du nombre de femmes qui vont dans ces maisons des femmes, quand j'ai suivi beaucoup, comme tous les Français d'ailleurs, le procès de Mme Pellicot, je me réalise qu'il y a quand même des grands malades, hein, quand même. Et donc, il faut aider ces femmes qui sont face à ces grands malades.
Merci beaucoup, Renaud Zelier, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.
Merci à vous.